franceinter.fr.
Bonjour Olivier Bénis.
Bonjour.
Alors ce matin, Florent Manaudou met l'équipe à l'envers.
Difficile de ne pas ouvrir cette revue de presse avec cette très belle une du quotidien sportif qui titre simplement « Renversant » avec une photo renversée du nageur français à la verticale sur toute la hauteur de la grande première page du journal. Un Florent Manaudou allongé de tout son long sur l'eau, souriant, apaisé. Il faut dire qu'il vient de remporter son troisième titre de champion du monde. L'équipe revient sur l'exploit bien sûr, mais surtout sur le nageur lui-même et notamment sur son parcours sportif et familial. D'abord dans l'ombre de sa sœur Laure, de 4 ans son aînée, puis dans la lumière. Ce qu'il veut, c'est être lui, décrypte Clémentine Blondet. Laure incarnait l'effort long, les bornes enquillées à l'entraînement. Lui n'aime que le 50 mètres et revendique sa paresse presque trop pour que ce soit complètement vrai. Quand elle n'a plus gagné, elle ne voulait plus nager. Lui est revenu plus fort. Le journal revient aussi sur les 5 titres internationaux de Florent Manaudou, à chaque fois à travers une anecdote. La dernière, c'était le 5 décembre dernier à Doha, au Qatar, quelques heures avant la finale du 50 mètres. Le nageur ne trouve pas le sommeil. Il envoie un texto à son entraîneur pour lui faire part de son inquiétude. Romain Barnier décide de ne pas le rassurer. Dors énervé, dors pas, c'est pas grave. Sache qu'en face, il n'y a pas de sérénité non plus. Le lendemain, le nageur français bat le record du monde. Son camarade Fabien Gillot le voit alors pleurer sur le podium. Florent, je l'ai déjà vu ravi, content, rarement aussi ému et même jamais ému. Quand Florent Manaudou flotte à la une de l'équipe, Marcelo Bielsa, lui, y coule. Le coach de Marseille qui a jeté l'éponge hier soir à la surprise générale laisse derrière lui un foutoir monumental selon le journal. Qu'il quitte son poste pour des désaccords contractuels ou pour d'autres raisons, Bielsa lâche un club qui s'était mis à genoux devant lui, résume Régis Dupont. Les supporters qu'il adulait auront des raisons de se sentir floués. Dans le JDD, Michael Caron se prend lui à rêver d'un remplaçant encore plus prestigieux. Un nom pourrait calmer la fureur des supporters, celui de Zinedine Zidane. Ce serait tout aussi fou.
8h32 sur France Inter, le journal du dimanche, Olivier Bénis, s'intéresse aussi aux nuits blanches, mais celles du président.
Voilà, nous sommes 2 jours après une nouvelle libération d'otages, cette fois la française Isabelle Prime. Et justement, les prises et les libérations d'otages, c'est l'un des domaines où François Hollande est le plus engagé, le plus efficace et le plus respecté. Un militaire confie même, certains lui reprochent son indécision, mais dans ce domaine, sa main ne tremble pas. Laurent Valdiguier revient sur la gestion par l'Élysée de ces crises bien particulières, où le président s'est mis très tôt et de lui-même en première ligne. Quand il arrive à l'Élysée en 2012, il est briefé sur la situation des 9 otages français dans le monde. Parmi eux, un agent de la DGSE capturé en 2009 à Mogadiscio en Somalie. François Hollande donnera ensuite le feu vert pour une intervention fin 2012. Elle se terminera tragiquement lors des funérailles, une cérémonie intime sans journaliste. Il tient à être présent avec Jean-Yves Le Drian. Plusieurs libérations plus tard, 3 ans plus tard, la méthode du président est toujours la même et passe notamment par un lien étroit avec les familles. Quand Hervé Gourdel est décapité en Algérie en septembre 2014, François Hollande est à l'ONU et s'apprête à faire un discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président préfère s'isoler pour annoncer directement la nouvelle à la femme et aux parents du guide. Un lien qui se poursuit encore longtemps après, raconte le JDD. À la réunion en août 2014, tout le monde s'étonne de voir un grand gaillard tomber dans les bras du président. C'était Francis Collomb, ancien otage du Niger. Dans le JDD toujours, un joli cas pratique pour journalistes. Comment 2 petits mots dans un titre peuvent changer profondément le sens d'une interview? En l'occurrence, celle de Jean-Marie Le Pen, président d'honneur en sursis du Front National. En une du journal, cette citation « Je ne voterai pas Marine en 2017 ». À l'intérieur, la version longue, autrement plus ambiguë. Sans changement, je ne voterai pas pour Marine en 2017. En vieux renard de la politique, l'ancien patron du FN se réserve une marge de manœuvre, mais n'est globalement pas tendre avec sa fille à qui il avait pourtant remis les clés du parti il y a 4 ans. Le choix s'est exercé entre 2 candidats de valeur, Marine Le Pen et Bruno Gollnisch. J'ai choisi Marine au bénéfice de l'âge et de la santé. En 4 ans, il faut bien dire la vérité, elle ne s'est pas améliorée. Et quand on lui demande quelles sont ses chances de remporter la présidentielle en 2017, son père répond simplement, elles étaient réel.
Passer ses vacances à l'usine, c'est ce que propose le Parisien ce matin.
Alors pas pour travailler bien sûr, mais pour visiter. Le phénomène est en pleine explosion selon le journal qui estime à 13 millions le nombre de personnes qui ont poussé la porte d'un site industriel ou artisanal en 2014, tout simplement pour voir ce qui s'y passe. Le plus souvent il s'agit d'entreprises agroalimentaires et viticoles, les Français sont des petits malins, mais parfois c'est aussi la curiosité pour des savoir-faire qui pousse à troquer le farniente pour les visites studieuses. Le plus gros succès français, c'est la verrerie de Biot, près d'Antibes. 700 000 visiteurs l'an passé, juste devant les 122 sites EDF ouverts au public et leurs 420 000 visiteurs. Dans son édito, Jean-Marie Montali résume tout le paradoxe de cette montée du tourisme au boulot. En France, on se méfie du patronat, mais on aime bien l'entreprise.
Allons donc, Olivier Bénis, pour cette question. Qu'est-ce qui fait danser la chanson française ?
Question très vaste, posée par l'Express cette semaine, qui se demande pourquoi des artistes aussi variés que Christine and the Queens, Stromae, Mika ou The Do se sont mis à bouger presque plus qu'ils ne chantent et comment ils ont mis fin à des décennies de ringardise de la danse. Claude François et ses Claudettes avaient laissé une image vieillotte et kitsch de la discipline, explique Thomas Sabot, organisateur de tournées. Aujourd'hui, la danse n'est plus ringarde, elle n'est plus associée à l'âge d'or des variétés de Mariti et Gilbert Carpentier, mais au registre indé. Olivia Merilati, la chanteuse du groupe The Do, résume tout. Comme on ne vend plus de disques, les concerts doivent devenir de véritables spectacles. Parfois jusqu'à l'extrême, nous dit le journaliste Julien Bordier, qui raconte un concert parisien d'un groupe suédois en mai 2013, où les musiciens étaient moins nombreux que les danseurs au cœur du spectacle. Certains spectateurs sont partis, s'estimant floués, d'autres sont restés conquis, et dans le lot, on pouvait apercevoir Olivia de The Do et la chanteuse de Christine and the Queens. Et puis cette autre incroyable performance réalisée par un Français, Tony Valent, premier auteur de manga français à être publié au Japon, la patrie du genre, ça n'a l'air de rien comme ça. Mais pour la BD française, c'est un pas de géant. Le Parisien dresse le portrait du jeune auteur de 30 ans, passionné de manga depuis tout petit, et dont le dernier bébé, Radiant, va désormais être lu jusqu'au pays du soleil levant. Pour son éditeur Frédéric Toulmonde, Tony Valent a tout pour devenir un auteur à succès. Il reprend les grands standards des mangas pour jeunes en y ajoutant une touche française comme l'humour de style Camelot ou des thèmes comme l'immigration ou l'exclusion qu'on ne trouve généralement pas dans ce type de livre. Passer de Camelot au pays du Kamehameha, il fallait oser.
Oui, et c'est très bien. Merci Olivier Bénis.